Juliette Rangeval.
Bonjour. En Italie, la guerre contre l'arrivée de migrants est déclarée depuis un an. Quand le pays a décidé de fermer ses ports aux navires humanitaires portant assistance aux migrants en mer, décision du gouvernement de coalition des populistes, du mouvement 5 étoiles et de la Ligue d'extrême droite. Et presque à chaque bateau qui approche des côtes, la bataille reprend entre le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, et les ONG. Car malgré l'annonce officielle, des embarcations de fortune continuent de prendre la mer et les arrivées se poursuivent, elles aussi, chaque jour. Mais désormais, Matteo Salvini a une arme de plus, son nouveau décret sécurité, Sicurezza Bis. Franceline Beretti.
Un décret signé il y a quelques jours, avec réticence, par le président de la République, Sergio Mattarella. C'est une déclaration de guerre aux ONG présentes en Méditerranée pour éviter la noyade aux rescapés de la Libye. Elles devront payer entre 10 000 et 50 000 euros d'amende en cas de sauvetage. Si le bateau transporte plus de 100 personnes, il sera confisqué. Pareil en cas de récidive. À supposer que l'équipage, le propriétaire ou l'armateur puissent payer, ils ne pourront le faire qu'une seule fois. L'organisation la plus emblématique en ce moment, c'est l'ONG Sea-Watch. C'est elle qui fait la première les frais de ce décret. L'Allemande Pia Klemp, capitaine du navire Sea-Watch 3, est déjà accusée de complicité d'immigration illégale par la justice italienne. Et le même bateau est maintenant au large de l'île de Lampedusa depuis 3 jours, avec interdiction de débarquer la cinquantaine de migrants sauvés des eaux, et avec donc une amende à payer. Un autre port avait été désigné, celui de Tripoli en Libye, un port reconnu comme dangereux par les Nations Unies, la Commission européenne et le Conseil européen. L'ONG a donc refusé d'y aller et elle attend au large de l'Italie avec ses passagers. Il y a des femmes, il y a 3 mineurs, le plus jeune a 12 ans. Sea-Watch n'en démord pas, elle n'amènera personne en Libye. Les témoignages des rescapés à bord indiquent encore une fois que ce pays n'a rien de sûr entre l'enfermement et les tortures. Ce bras de fer permet pourtant à Matteo Salvini d'accuser l'ONG de séquestrer des migrants et de jouer avec des vies humaines pour faire de la politique.
L'Estonie, c'est le royaume du tout numérique, dans l'administration comme dans le privé, avec une exception, le secteur agricole, jusqu'ici un peu à la traîne. Mais ces 3 dernières années, une application locale de gestion des exploitations céréalières s'est imposée parmi les producteurs, forçant les institutions à élaborer un plan de numérisation de ce secteur-là aussi. C'est un reportage de Marielle Vituro, notre correspondante dans les Pays-Baltes, en partenariat avec la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.
Un champ de seigle à perte de vue. Robert Swalox gère 1300 hectares de céréales et de cultures fourragères près de Tartu, dans le sud de l'Estonie. Aujourd'hui, l'agriculteur ne manie plus le papier et le crayon pour diriger son exploitation. Grâce à son téléphone, son champ est devenu son bureau.
J'entre les tâches à faire dans le logiciel parce que je suis le chef d'exploitation. Mes hommes peuvent voir ces tâches. Lorsqu'ils arrivent sur l'exploitation le matin, ils savent quoi faire. Une fois le travail achevé, ils l'indiquent à leur tour dans le logiciel et ainsi je peux suivre l'avancée des travaux sur mon portable.
Robert Swalox sort son appareil. Les champs récoltés, nombreux, s'affichent en vert. Ceux marqués en rouge sont les champs où la moissonneuse n'est pas encore passée. Développer un logiciel destiné aux céréaliers, l'une des productions principales de l'Estonie, pour faciliter leur travail, est une idée de son fils. Stenver Jerku, programmeur, l'a concrétisé. La start-up estonienne, Agronome, est désormais présente dans 9 pays et est utilisée par près de 10 000 exploitants. Le logiciel aide les agriculteurs dans tous les aspects de la gestion de leur exploitation.
Vous savez ce que les agriculteurs font durant l'hiver ? Ils prévoient leurs semences pour la nouvelle saison, la quantité de pesticides, d'engrais, leurs finances, les questions logistiques. Ils analysent pourquoi tel champ a eu un meilleur rendement qu'un autre. Notre logiciel les aide dans ce processus, puisque chaque parcelle dispose de son relevé agronomique, et avec toutes ces données, un clic suffit pour générer les rapports d'exploitation demandés par l'État.
Robert Swalox en mesure les avantages tous les jours.
La comparaison est éloquente. Quand je n'utilisais pas encore le logiciel,
Je faisais deux fois plus de kilomètres qu'aujourd'hui pour me rendre sur toute mon exploitation et la surveiller. Aujourd'hui, je prends beaucoup moins la voiture et je marche beaucoup plus. J'ai plus de temps à passer dans les champs pour les observer.
Le succès de IA Agronome a secoué le secteur agricole. Martin Cook, monsieur Nouvelle Technologie au ministère de l'Agriculture, le reconnaît sans mal. La spécificité du secteur où l'État est très impliqué via le système d'aide est une raison. La nécessité de les utiliser pour favoriser une production plus écologique en est une autre. Un plan de numérisation est d'ailleurs prévu pour 2030. Numérisation et logiciels doivent aider à redorer le blason de l'agriculture.
Dans une certaine mesure, l'agriculture ici est considérée comme un secteur économique qui a des effets néfastes sur l'environnement. L'utilisation répandue de logiciels pour contrôler leurs méthodes de production pourrait aider les fermiers à réduire cet impact. Si on peut ainsi diminuer la quantité d'engrais utilisés, cela améliorera la qualité des nappes phréatiques.
La consommation de pesticides a en effet doublé depuis l'entrée de l'Estonie dans l'Union européenne. Un grand projet de création d'une base de données agricole publique est aussi sur les rails, qui pourrait aider à développer de nouveaux logiciels. Les idées fourmillent dans la tête de Kaupo Formantik, spécialisé dans les images satellites.
Nous pourrions par exemple aider pour détecter les maladies et les mouvements des espèces nuisibles. C'est une question cruciale pour les agriculteurs. Mais à ce jour, les images satellites de surveillance à disposition sont impossibles pour eux à ouvrir et à décoder.
Dans la tête de Stenver Yaku, les idées fusent aussi.
Ce que nous faisons avec les données agricoles collectées par le logiciel, c'est de monter un programme basé sur l'intelligence artificielle pour donner des conseils agronomiques aux agriculteurs.
Mais Martin Cook, au ministère de l'Agriculture, est conscient des limites de ce développement technologique dans un pays où quelques grandes exploitations détiennent une grande partie des terres.
Il faut que le secteur public soit partie prenante de ces développements dans l'agriculture. Tout ne doit pas être régulé par le marché libre, car dans ce cas, la concentration dans le secteur agricole sera encore plus importante.
Kaupo Formantik sait bien que les technologies numériques peuvent être synonymes de surveillance.
1984, le roman de Orwell et Big Brother sont des questions qui nous préoccupent. Rien ne doit être secret. Ce sera sans problème si l'État et l'agriculteur sont tous les deux en possession de la même information.
Les agriculteurs sont confiants, comme Raivo Vilvere, agronome dans une coopérative. De telles initiatives numériques peuvent apporter un renouveau.
Pour ceux qui pratiquent l'agriculture de manière indépendante, cela leur permet de s'occuper de leur ferme tout seuls, sans qu'ils aient besoin de trouver des consultants ou de l'aide.
Le renouveau est déjà perceptible. Grâce aux aides européennes, l'agriculture devient un secteur attractif. Les jeunes citadins sont de plus en plus nombreux à s'installer. Ils donnent un coup de neuf aux produits traditionnels. Mais en contrepartie, le prix de la terre s'envole aussi.
Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça?
Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
Claire Ancel, qui a vendu son amour.
Agriculture, politique et industrie chimique, pesticides et santé publique. C'est le mélange explosif que manie le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade dans sa série Jeux d'influence diffusée sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Oscarisé en 2002 pour Un coupable idéal, Jean-Xavier de Lestrade est l'invité d'Accent d'Europe. Il a choisi la fiction pour Jeux d'influence, mais en s'inspirant d'une histoire vraie, celle d'un agriculteur français, comme il l'explique à Catherine Roland.
Moi, je viens d'un milieu agricole. Mes parents étaient agriculteurs. C'est mon père qui avait trouvé un article dans le journal régional sur cet agriculteur, Paul François, qui avait, en 2009, décidé de porter plainte contre Monsanto. J'avais mis cet article un peu dans un coin de mon bureau. Je me disais, un jour, peut-être que je le ressortirai pour alimenter un travail de fiction. Et ça, c'est typique de la manière dont on a écrit. Il y a un point de départ qui est très réaliste et très réel. Après, le personnage de Michel Villeneuve n'est pas Paul François. La série, c'est quand même l'affrontement entre une personne ou des gens qui sont censés, la classe politique, qui sont censés défendre l'intérêt public face à des multinationales qui défendent les intérêts privés, leurs intérêts. C'est ça qu'on essaye d'ausculter et de décortiquer.
Oui, on y vient. Je vous mettais donc en scène à ceux qui manœuvrent dans les coulisses. Ce qu'on ne voit pas en général, les lobbyistes dont les clients sont justement ces fameuses multinationales. Et là, vous les montrez, hein, ils sont prêts à salir la réputation de parlementaires, de tous ceux en fait qui s'opposent à l'entreprise. Il y a un vrai méchant et ce méchant, c'est Mathieu Baumann.
Je pense que pour avoir une bonne fiction, une bonne série, il faut des vrais bons méchants, mais des méchants aussi complexes, qui sont séduisants, brillants. On se pose toujours la question au fond, mais pourquoi mettent-ils leur talent au service d'entreprises qui n'ont aucune morale et qui sont prêts à défendre plutôt le mensonge que la vérité? Il y a une jouissance à manipuler les autres, à jouer avec la vie des autres, et c'est ça que sans doute le moteur chez eux.
L'autre héroïne qui va justement s'employer à apporter des informations à ce cabinet de lobbyistes, c'est une ex-journaliste, elle vient d'être licenciée, et il y a un des parlementaires qu'elle fréquente qui lui dit d'ailleurs qu'elle a vendu son âme au diable.
C'était très intéressant d'avoir un personnage qui, au début de la série, passe le Rubicon. C'est une journaliste politique qui a une bonne réputation, on ne s'attend pas du tout qu'elle passe du côté des lobbyistes, mais bon, on suppose que si elle l'a fait, il y avait un motif profond chez elle. Et donc, elle se retrouve à travailler pour les cabinets lobbyistes. Elle travaille très bien, d'ailleurs, elle le fait très bien.
Très efficace, oui.
Très efficace. Et peu à peu, à travers ce personnage, à travers sa prise de conscience, elle découvre aussi de la manière dont on travaille dans ces cabinets-là. On peut salir la réputation des gens, on peut faire pression sur leur famille. Il y a tout un éventail comme ça de moyens de pression. Et peu à peu, son éthique ou
la rattrape.
Et donc, c'est un personnage qui va faire le pont entre les deux camps.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme. Même le paysan hésite parce qu'il y a aussi ces problèmes familiaux. En fait, tous ont une part d'ombre. Et puis d'ailleurs, c'est ces parts d'ombre qui vont être exploitées par les cabinets de lobbyistes et ce fameux Mathieu Baumann.
Bien sûr, parce qu'au fond, les cabinets de lobby, ils agissent de manière très simple. C'est avant tout recueillir des informations sur des gens qui, à un moment donné, vont sans doute se retrouver en position de prendre des décisions qui vont concerner des grandes sociétés pour lesquelles ils travaillent.
Nous, on a vu ça avec Monsanto récemment et un certain nombre de journalistes.
Voilà, un certain nombre de journalistes étaient fichés par un cabinet de lobby. Donc, on fait des dossiers sur des personnalités politiques, sur des journalistes éventuellement, sur toute une catégorie de gens qui ont de l'influence. Et à un moment donné, quand on a besoin, on sort ces dossiers et c'est ce qui permet de faire pression. Et là, on n'hésite pas dans la graduation. On va dans des choses qui peuvent être très intimes, très personnelles.
Alors, ce que vous racontez, je le disais, ça ressemble aux pratiques du géant américain Monsanto qui a été racheté par Bayer. Vous n'avez pas peur, vous, de votre côté, d'être attaqué en justice?
On a quand même tout de même fait assez attention d'un point de vue juridique. Les scénarios ont été relus par des avocats. Mais pour moi, on parle beaucoup de Monsanto parce que à travers le glyphosate et que c'est le Roundup. Et surtout le Roundup parce que c'est le nom que tout le monde connaît. Mais au fond, aujourd'hui, il y a trois gros groupes qui se partagent la production des pesticides dans le monde. Je crois qu'ils poursuivent tous le même but, vendre le maximum de produits pesticides. Et est-ce que ces produits sont contrôlés de la manière dont ils devraient être contrôlés? Je suis quasiment certain que non.
Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade, Jeu d'influence, est diffusé sur Arte. Summer is coming. L'été arrivé, avec lui, les vacances et une saison touristique prometteuse en Irlande du Nord. Le pays d'accueil de la célébrissime série Game of Thrones n'en finit plus de voir affluer les fans du monde entier. Tous veulent marcher dans les pas de leurs personnages préférés et fouler certains des décors de Westeros. La contrée imaginaire au centre de l'histoire, l'Office du tourisme national estime même qu'un visiteur étranger sur 6 a fait le voyage exprès. Et malgré la fin de la série, l'Irlande du Nord compte voir la tendance se poursuivre. Reportage à Westeros de Julien Lagache.
Good morning. My name is Brian. I'm going to be your guide today. Welcome to GameOfThronesTours.com. Ce matin-là, c'est un bus Game of Thrones quasiment plein qui part à la conquête de Strangford Lock et de Castle Ward, alias le Trident et Winterfell. Des noms qui donnent envie de visiter l'Irlande du Nord, se réjouit le guide Brian Cunning.
Avant Game of Thrones, l'image de mon pays, c'était un bateau qui a coulé, des paysages urbains en feu, des émeutes, des bombes, des armes, des blessés, des morts. Pas de quoi attirer les touristes chez nous. Alors oui, le Titanic et les troubles, c'est notre histoire, mais c'est du passé. Et puis Game of Thrones a débarqué à la télé. Les gens ont fait « Waouh, super les images de synthèse ». Excusez-moi, en fait, c'est l'Irlande du Nord, ça. Alors tout le monde s'est dit « Il faut qu'on y aille ». Et vous voilà.
Game of Thrones, c'est l'assurance d'une publicité internationale qui attire passionnés et curieux des quatre coins du monde. David, 21 ans, vient de terminer un semestre d'études en Europe. Pour lui, c'était le détour à ne pas manquer avant de rentrer aux États-Unis.
J'ai d'abord visité le musée du Titanic et j'ai découvert que juste en face, il y avait l'exposition Game of Thrones. J'y suis allé tout de suite après. Et là, j'enchaîne deux visites Game of Thrones. Winterfell, aujourd'hui, et les îles de Fer et la côte demain.
Avec pas moins de 26 lieux de tournage et Belfast comme épicentre de production de la série, l'Irlande du Nord s'avère une étape obligée pour les touristes venus en fan. À eux seuls, ils auraient d'ailleurs dépensé 58 millions d'euros dans le pays l'an dernier pour voir Westeros de plus près.
C'est le moment où le roi Robert Baratheon arrive à Winterfell. Et en fait, vous vous trouvez quasiment là où se tenaient Ned Stark et sa famille dans cette scène.
Brian Cunning connaît très bien l'univers de Game of Thrones puisqu'il y a été figurant à maintes reprises dans plusieurs rôles différents. Un témoignage précieux pour les passionnés comme Rhea et son ami Carlo, venus des Philippines, et pour qui Winterfell était une priorité.
C'est très amusant et surtout très intéressant parce qu'avec un guide qui a joué dans Game of Thrones, on a beaucoup d'anecdotes et d'informations sur le tournage.
Je trouve ça vraiment fascinant. C'est une autre perspective et une vision des
coulisses. Dans les ruines d'Inch Abbey, où Robb Stark est proclamé roi du Nord à la fin de la première saison, Brian Cunning se rappelle du froid sur le tournage et raconte que la cape d'un comédien a pris feu devant la caméra ce jour-là. Chacun enfile ensuite un manteau et a droit à une épée, comme pour se glisser dans la peau d'un des personnages. Secret de tournage, expérience immersive, tir à l'arc ou encore rencontre avec les loups de la famille Stark, la saga a généré une offre touristique importante, ce qui a profité à Caroline McErlan, propriétaire de l'hôtel The Coon à Portaferry, non loin du site qui a inspiré Winterfell. Elle a hébergé l'essentiel des acteurs de la famille Stark, d'où un certain succès aujourd'hui.
Je dirais que 20% de nos réservations cette année sont liées à des clients intéressés par Game of Thrones, par nos produits ou parce qu'ils veulent dormir dans la même chambre que Jon Snow. Et il s'agit principalement de touristes qui ne seraient pas venus sans ça. J'ai reçu un appel ce matin d'une cliente en Chine. C'est sans doute ce qui a le plus dopé notre activité en 29 ans d'existence.
L'auberge de Caroline McErlan cultive d'ailleurs son lien avec la série signée HBO. Elle propose un pique-nique Ned Stark, un banquet inspiré des romans de George R.R. Martin et même une bière baptisée Hodor, brassée uniquement dans la région. Pour l'économie nord-irlandaise, le phénomène Game of Thrones constitue une manne et malgré la fin de la série, Brian Cunning ne voit pas la tendance s'arrêter de sitôt.
À un moment de cette saison, on a compté au moins 41 millions de téléspectateurs sur un épisode de Game of Thrones. C'est phénoménal, c'est un chiffre impossible à se représenter. Et quand on y pense, Le Seigneur des Anneaux date d'il y a 20 ans. Et les gens continuent d'aller en Nouvelle-Zélande parce que c'est le décor du film. Eh bien ici, c'est Westeros. On peut bien avoir 20 ans de Westeros, non ?
We could have 20 years of Westeros, could we not?
D'autant que l'Office du tourisme compte bien susciter encore l'intérêt des fans avec l'ouverture au public des studios de Game of Thrones d'ici à 2020, alors que se prépare toujours à Belfast le tournage d'une nouvelle série dérivée, de quoi peut-être entretenir l'attractivité du tourisme télé nord-irlandais.
Accent d'Europe à la réalisation, Jérémy Besset. On se retrouve ici demain à la même heure.